L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
C'est un moment aussi fondateur pour eux que la grotte d'Ibiza l'a été pour vous, Jean-Louis Aubert. Après 2 heures d'une lutte acharnée, nos journalistes en compétition vont enfin découvrir le verdict.
Ils sont
qui
pas nus.
Sera... À part, oui, et encore.
On n'a pas vu de substance.
On ne voit pas ce qui se passe sous la table. Qui va être élu chroniqueur du jour? Pour convaincre notre invité, il leur reste la séquence du qui tout double, ce petit argumentaire choc que chacun doit livrer pour faire pencher la balance en sa faveur. Argumentaire plus ou moins alambiqué selon les journalistes.
Sauver les insectes, c'est un petit peu sauver le monde, donc voter pour moi, c'est un petit peu sauver le monde.
Ça, c'était quand même n'importe quoi, Anne Légal. Alors, Anne Légal, essayez d'être plus percutante aujourd'hui. Pourquoi Jean-Louis Aubert devrait-il voter pour votre sujet sur la banquise?
Pourquoi? Mais parce que, Jean-Louis, ce n'est pas juste une illusion. Parlez-moi d'amour et d'environnement et tout sera parfait dans un autre monde.
Et j'ai tellement bien écouté votre sujet que j'ai dit le sujet sur la banquise. On le garde. Mathieu Charrier, pourquoi il faudrait voter pour vous et la philosophie?
Du coup, j'ai pas écouté son argumentaire. Parce que j'étais là, j'étais sur la banquise.
Ça lui était dédié. C'était un poème en plus, Mathieu.
Nous vous écoutons. Pourquoi faut-il voter pour vous, Anne?
Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une illusion. Parlez-moi d'amour et d'environnement et tout sera parfait dans un autre monde.
Ah oui, effectivement.
Quatre titres.
Ah, il y a eu du travail. Quatre titres en une réponse. Mathieu Charrier,
allez-y. J'espère que j'ai réussi à enchanter Jean-Louis Aubert avec la philosophie, contrairement à son professeur de lycée, visiblement.
Mais j'adore la philo.
Ah bah ça c'est formidable, il y a de la philo dans vos albums, il y en a dans les Disney, voilà. C'est un thème qui vous parle.
Bien tenté, Charrier. Maintenant, Jérôme Lacroix, pourquoi faut-il voter pour vous?
Si vous votez pour moi, Jean-Louis, je vous fais le serment d'envoyer à Mike Horn, donc l'explorateur dont j'ai parlé, qui est actuellement dans le Grand Nord, je lui envoie le dernier album de Jean-Louis Aubert et votre musique.
Et comme il a certainement un lecteur CD là-bas sur son traîneau à ski, c'est vrai que c'est vraiment très pratique.
Je lui envoie numériquement et votre musique sera jouée au milieu du Grand Nord.
Jérôme Lacroix, vous êtes le plus formidable escroc de cette bande. Eve Roger, pourquoi voter pour vous?
Je vais être trash comme mon sujet. Oui. C'est-à-dire que c'est pas que je le trouve très très bon mon sujet, mais je trouve que les trois autres sont très mauvais.
Oh, vous êtes ignoble, mais en même temps vous êtes compétitive. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ils ont bien entendu la voix d'Eve Roger parce que c'est pour elle qu'ils ont voté.
Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous leur faites aux auditeurs?
Ils m'aiment, c'est
tout. Vous faites des extras en dehors de votre fin, c'est pas possible. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Mathieu Charrier qui a eu le courage de parler philosophie sur cette antenne entre 16 et 18 heures. Et ça, j'apprécie. Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Jean-Louis Aubert, je sais que vous êtes quelqu'un de naturellement bienveillant. Je vais donc vous demander de bien vouloir aller contre votre nature en éliminant sèchement trois journalistes pour n'en regarder
mais c'est
qu'un.
C'est pas possible, vous foutez de moi là. Non,
qui,
mais...
selon vous, mérite d'être élu
je
chroniqueur du jour?
Pas.
Ah, si, vous répondrez.
Puisque le public a voté, que vous avez voté, il y a égalité là.
Vous, ça compte triple. C'est vous qui faites le choix en fait.
Mais je ne peux pas.
Faites-le.
Mais
celui qui vous paraît le plus sympathique. Vous n'êtes pas obligé de voter sur le fond, il n'y a aucune règle. Il y en a même un qui a voté un jour pour quelqu'un parce que c'était l'attaché de presse de sa femme. Sa femme était l'attaché de presse de notre invité. Donc c'est pour vous dire où on en est.
Je crois que je vais voter pour Anne.
Vous votez pour Anne, mais il faut dire que...
Merci,
aujourd'hui, Anne Le Gall, vous nous parlez d'un mal nouveau, psychologique, la solastalgie.
Voilà, solastalgie, ça vous fait penser à quoi? Ça pourrait
nostalgie.
Être... Nostalgie.
Ouais. Nostalgie, oui.
Ouais. Alors,
cela, c'est peut-être la nostalgie du sol.
Du sol. Alors, en fait, c'est l'angoisse liée au réchauffement climatique. Il ne faut pas chercher de racines grecques ou latines. En fait,
mal.
Ça vient de l'anglais. Oui. Ça vient de solace, qui signifie réconfort en anglais. C'est un mot qui a été inventé en Australie dans les années 2000. C'est en fait la peur de perdre son cocon, de perdre son chez-soi. Et on parle aussi d'éco-anxiété. Alors, par exemple, quand l'été dernier, la jeune chanteuse Angèle se met soudain à son piano après avoir lu un article dans la presse sur le réchauffement climatique, ça s'apparente à de la solastalgie.
Mais quand on se rendra compte du temps qu'il nous reste en fin de compte.
Voilà, elle a lu un article pas cool, elle a les boules, elle dit qu'on est dans la merde, sa vidéo a été vue 2 millions de fois.
Petite parenthèse pour nos auditeurs, si jamais dans la même saison je reçois Jean-Louis Aubert et Angèle, j'arrête ma carrière, je rends les clés.
Ah
et oui, je me retire, je me retire.
Attention, parce que moi j'ai très envie de rencontrer Angèle aussi.
On aurait pu organiser ça le même jour, ça aurait été très bien.
On fera un duo et on fera un live.
Bon, continuons, pardon Anne Gall pour cette digression.
Alors en tout cas, l'éco-anxiété c'est plus courant qu'on ne pense, notamment chez les jeunes. Dans son cabinet de consultation, le docteur Stéphane Clerget estime que cette angoisse concerne un enfant sur cinq.
Ils s'inquiètent du fait qu'il n'y ait plus d'animaux, ils s'inquiètent de la pollution. D'ailleurs, ils peuvent dire à leur père ou à leur mère de rouler moins vite. Ah oui. Et certains s'inquiéter en disant qu'ils ont peur que le monde disparaisse. Alors à la fois, ces inquiétudes-là existaient déjà avant, c'est-à-dire que les plus jeunes avaient peur de la fin du monde, peur que la Terre explose. Simplement, là, c'est l'angoisse qui est en train d'occuper la première place. Est en train de passer, par exemple, devant les angoisses des attentats, hein, en tout cas en région parisienne.
Est-ce que c'est normal d'avoir cette angoisse qui monte ?
Alors, en tout cas, c'est logique, parce que d'après les projections climatiques, un enfant qui naît aujourd'hui vivra avec 4 degrés de plus avant d'avoir atteint ses 70 ans. Ça signifie plus de canicules, plus de tempêtes, une production agricole modifiée. Ajoutez à ça la pollution, la perte de biodiversité. On comprend bien pourquoi, selon l'IFOP, 85% des Français sont angoissés par le réchauffement climatique. Et dernier chiffre paru hier, 40% des Européens de moins de 30 ans pensent qu'ils vont devoir un jour déménager à cause du réchauffement climatique. Donc l'éco-anxiété, en tout cas, elle est logique et elle est partagée. Maintenant, est-ce qu'elle est inquiétante ? Est-ce qu'on est en train de construire une société de dépressifs à cause de l'environnement ? Eh bien, en fait, non, m'a expliqué Stéphane Clerget. En tout cas, pour beaucoup de Français, l'éco-anxiété, en réalité, vient se substituer à des angoisses existentielles qui se seraient exprimées de toute façon. Donc pour un enfant, par exemple, c'est normal d'avoir peur de perdre ses parents, son chez-soi, ses repères. Et en fait, la peur climatique vient se substituer à la peur du noir, la peur du loup ou la peur des voleurs, par exemple.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette nouvelle angoisse pour soi et pour ses enfants ?
Alors déjà, si vraiment cette angoisse empiète sur le quotidien, qu'il y a une perte de sommeil, une perte d'appétit, il y a des enfants en fait, qui sont angoissés aujourd'hui à l'idée de manger une nourriture trop industrielle ou à l'idée...
Ça, je trouve ça dingue. Mon fils de 7 ans, il m'interpelle là-dessus. Il me dit, mais t'es sûr qu'il n'y a pas de produit ? Je pense que moi, quand j'avais 7 ans, je ne me posais aucune question. Je prenais ce qu'on me donnait, le Nutella avec l'huile de palme.
Et mais voilà. Non, mais vous aviez d'autres questions existentielles,
ah
en
oui.
fait.
C'est et ça. Là, il scanne les étiquettes, il s'intéresse au bio. Enfin, parfois, ça peut aller trop loin. Mais sinon, donc dans ce cas-là, on consulte. Mais sinon, alors tout simplement, les psychiatres conseillent aux parents aussi, quand on parle d'environnement, de parler des solutions et de demander à l'enfant, et toi, qu'est-ce que tu ferais comme solution ? Enfin, qu'est-ce que tu apporterais ? On peut parler aussi voilà, des énergies renouvelables. On peut inviter l'enfant à tisser des liens avec la nature, à s'intéresser aux plantes, aux animaux, à aller se balader en forêt. Il faut se méfier évidemment des discours trop catastrophistes sur l'effondrement. Il faut se méfier des fake news. Et puis, les psys conseillent enfin de ne pas oublier de vivre au présent, parce qu'évidemment, les enfants, avant tout, doivent jouer, apprendre à lire, à compter, et à vivre en société.